Pierre Vernon, à votre liste, peut-être...
Je dis d'Étienne parce que c'est véritablement un ami. Vous savez, dans ce livre « Guerre secrète » que j'ai été content de faire avec mon ami Benoît Chantre aux éditions Cardena, il y a un moment où je m'interroge sur le nom. Pourquoi est-ce que c'est le père de la mère d'Ulysse qui lui a donné son nom? Alors, c'est toute une histoire. Là, j'envoie, tout simplement, il est aux États-Unis, je lui envoie un mail, il me répond tout de suite. C'est-à-dire, avouez que c'est drôle de discuter au-dessus de l'Atlantique, par-delà l'Atlantique, de questions très fines, parce qu'ils sont en même temps très, très mystérieuses. Hein. Voilà, pourquoi Ulysse est-il aimé par une déesse? Qu'est-ce que c'est que c'est? Les dieux grecs, c'est très, très intéressant. Ils bougent, et puis surtout, les déesses m'intéressent particulièrement. Je trouve qu'on n'en parle plus assez. C'est Athéna, Aphrodite, tout ça. C'est très intéressant.
Cyclope aussi, qui n'est pas une femme pour le coup, mais qui dit beaucoup de l'omniprésence de l'image dans notre civilisation.
Absolument.
Mais j'allais interrompre Alain Gérard Slama qui voulait parler de femmes avant de retrouver Marc Cravette.
Je veux juste en remettre une petite louche pour Dionysos. Vous avez dit la technique, bien entendu, ça c'est sans aucun doute le fléau principal aujourd'hui qui est en train de tuer le livre, entre autres. Mais vous ne croyez pas quand même, notre époque, c'est aussi l'émotion, le sentiment à l'excès, et qu'il faut précisément, c'est ça mon souci, moi. Il ne s'agit pas de les nier, mais de les rééquilibrer quand même par l'exercice de la raison. C'est ce que vous faites vous aussi.
Mais l'ignorance est toujours sentimentale. Vous savez, c'est connu. Plus les gens sont ignorants, plus ils se livrent à des passions, à des effusions sentimentales. C'est bien ce qui est cherché par toute tyrannie, à la fois l'ignorance et à la fois l'émotion. Nous avons vu ça au XXe siècle. Hein, voilà.
Marc Cravette.
Alors, je reviens un peu en arrière. C'est vrai que c'est quand même un peu réjouissant. Enfin, je dis un peu réjouissant.
Je suis réac et Marc est rétro.
Et bien, justement.
En avant.
C'est ce qui nous différencie. C'est que, je fais partie de ces gens. Peut-être que ça aussi, c'est en voie de disparition. Qui pense qu'il y a une histoire qui est faite de rupture, qui est faite de haut, de bas. Donc que dans cette histoire, il y a, vous citiez vos trois tabous tout à l'heure, Vichy, j'étais pas
la
tout
guerre
à fait là,
mais
donc ensuite la guerre d'Algérie 68. Et c'était, j'ai trouvé très intéressant que dans la campagne électorale, un individu dont on va oublier le nom, mais dont le porte-parole est devenu président de la République, c'est extraordinaire dans ce pays, a dit qu'il fallait liquider.
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure.
Il en a largement parlé tout à l'heure, Marc. Donc,
liquider est un mot stalinien, voilà.
Oui, mais
qui
s'exploite très bien. C'est-à-dire cette idée qu'il faut qu'on peut enlever une époque de l'histoire et que ça, on se porterait mieux sans. Et d'avoir ajouté que la France n'avait pas connu une telle crise depuis Jeanne d'Arc avec quelque chose d'assez bouleversant parce que...
Mais en même temps, c'est ce que fait Philippe Solers, Marc Cravette, dans ses mémoires. Vous faites le tri aussi parmi les événements du passé, vous aussi.
Mais sauf que Philippe Solers assume le fait que tout ça ait eu lieu, que c'est ça qui bouge, que ça bouge pas forcément dans le bon sens, qu'il y a des hauts et des bas, mais qu'il y a un continuum historique, qu'on a le droit de vivre avec et pas dans cette espèce d'éternel présent que nous institue...
La première volonté de quelqu'un qui veut installer une tyrannie, c'est assez simple, n'est-ce pas? C'est des usurpateurs chaque fois. C'est-à-dire faire disparaître au maximum l'histoire. Plus il y a de connaissances de l'histoire, moins on est soumis à ce qui vient d'arriver comme quelqu'un qui veut usurper le temps. C'est ce que j'appelle les gens qui se prennent pour les propriétaires du temps. N'est-ce pas ? Et brusquement, vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis propriétaire du temps ».
Mais vous avez vraiment le sentiment qu'on est en train d'installer une tyrannie en France aujourd'hui ?
Non, pas seulement en France. La France est un petit dominion des États-Unis. D'Amérique, qui eux-mêmes sont pris dans un vaste mouvement planétaire technique. C'est pas si simple. La France, mon Dieu, mais pas du tout. C'est pas si c'était que la France. Non. C'est quelque chose de vraiment mondial. Je vois que nous sommes. Il faudra reprendre toutes ces discussions. Nous sommes sortis des temps modernes. Nous sommes dans une autre ère, qui est une ère planétaire. Je vous assure que ça demande des précisions. La France, elle fera ce qu'elle pourra, la France.
D'ailleurs, dans ces guerres secrètes que vous racontez, il y a l'importance des batailles spirituelles. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes.
Ça, c'est Rimbaud. Ça, je trouve ça extraordinairement important. C'est une saison en enfer, c'est un texte qu'il faut relire sans cesse. La bataille spirituelle est aussi brutale que le combat. Voilà, ça c'est très 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 important. Alors là, nous entrons en effet dans des chocs. Je n'invente rien, n'est-ce pas ? Les religions sont effervescentes, tout ça est en ruine et en même temps fume de partout. Là, nous sommes dans quelque chose qui était impensable encore il y a 40 ou 50 ans. On vous aurait dit que le Coran serait brandi par des gens qui se faisaient exploser. Tout ça est nouveau. Il faut simplement le terrorisme, le choc des fondements religieux de notre planète. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il faudrait quand même lire les Grecs. Si on ne lit pas les Grecs, si le grec est oblitéré, comme d'habitude, ce sera l'obscurantisme et tout simplement, pourquoi pas un livre unique et puis tous les autres sont inutiles.
Marc Cravette.
Vous disiez qu'on ne passe pas de Philippe Solers à Harry Potter, c'est pourtant bien ce qu'a fait Gallimard.
Gallimard comprend très bien. Je fais d'ailleurs son éloge. Comprend très bien, c'est Machiavel, n'est-ce pas? Le prince sait comment il faut faire. Le fond Gallimard paraît en effet quelque chose qu'il faut absolument défendre parce que. Voilà, c'est là qu'il y a une mémoire active. Et là, il y a beaucoup de gens dans les caves du vrai Vatican.
Et il faudra peut-être un jour faire rentrer Harry Potter dans la Pléiade, après tout.
Non, mais il y a eu un article de Marc Lambron qui dit ça de façon amusante. Il voit Harry Potter, alors j'apparais en Moldu, je sais pas comment, moi je m'en fous.
Les Donc, Moldus et les méchants, à nouveau méchants, ce rôle qui vous est assigné.
Mais j'en mets Harry Potter dans les caves de Gallimard, et d'un coup de baguette, il fait que les Pléiades se vendent des millions d'exemplaires, voilà.
Alain Gérard. Oui.
Vous revendiquez quelque chose que je partage totalement, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure la polyphrénie, enfin être proté. Nous sommes effectivement multiples. Nous sommes multiples dans l'espace, nous sommes multiples dans le temps, selon l'activité. Je repense toujours à Proust et à son Contre-Sainte-Beuve, n'est-ce pas? Bon, selon les activités auxquelles nous attachons, nous sommes divers. Montaigne.
Ondoyant et divers, ondoyant, comme a dit voilà, mon ami Montaigne. Oui, c'est ça.
Donc là, je pense qu'on est totalement sur la même longueur d'onde. Et pourtant, dans le vrai roman, vous dites quelque chose qui est à propos d'une terre grasse. Vous dites, vous semblez indiquer que tout se joue à 17 ans.
Ah oh ouais, ben bon.
Alors, il y a quand même un paradoxe.
Parce que Freud a dit des choses très très puissantes. Et d'ailleurs, l'hommage constant à Freud, hein, c'est-à-dire vraiment bien avant 17 ans.
Il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut renvoyer quelqu'un, comme vous le faites pour Günter Grass, à son passé? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand même, où il ne s'agit pas de liquider l'histoire, il ne s'agit pas de nier les étapes par lesquelles nous sommes passés, mais est-ce que la liberté, ça ne consiste pas à pouvoir dire, eh ben oui, j'ai été con, j'ai fait telle sottise, j'ai fait telle erreur.
Oui, ça, c'est la repentance, c'est l'autocritique, c'est ça.
Sans tomber dans la repentance.
Il a entendu justement quand même très longtemps. Oui.
Ceux qui m'obligent à la repentance, ce sont ceux qui me renvoient à ce passé en me culpabilisant son nom. Donc, je vous pose la question à propos, justement, de la page vous consacrez à Grass, sur lequel vous émettez un jugement très différent de celui d'Ali en tant qu'écrivain, mais j'ai vu que vous dissociez le jugement que vous portez.
Non, je disais de l'Académie Nobel, surtout.
Voilà, bon, alors Ali a parlé d'immense Grâce, quand même.
Le Nobel se trompe très souvent.
L'immense Grâce Nobel.
Oui, le Nobel
Donc, si
se
vous voulez, comment est-ce que vous... Philippe Solers. Organisez ça, parce que moi, je pense que la liberté, ça consiste à prendre à l'individu dans la diversité de ses possibles, sans émettre de jugement moral nécessaire et le culpabiliser sur son passé.
Absolument. On essaye assez de me culpabiliser pour que je n'aie jamais recours à la morale. Mon discours est toujours...
Mais très, 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 cherche à vous culpabiliser,
non, mais
Philippe Solers.
Sur Günter Grass, vous faites...
Mais Mao, oui. Mais pas ceci, mais pas cela. On n'a même pas eu le temps de développer mes nombreux masques. Mais passons. Non, la morale, ce n'est pas mon affaire du tout.
Mais sur Günter Grass, vous faites une exception néanmoins.
Non, je dis que c'est étonnant qu'il y ait eu, ce secret... Oui. 2. La continuation de ce secret. 3. Un secret...
Le secret, c'est son adhésion à la Waffen-SS quand il avait dit
un secret comme ça ne peut être qu'un secret de Polichinelle. 3. Si vous voulez qu'on rentre dans les tubulures, à ce moment-là, il est fatal que c'ait été su. On ne peut pas cacher quelque chose comme ça. Donc, je parle des transactions de l'ombre, etc., etc., on n'en finirait pas. Donc, voilà, j'ai dit, et je maintiens qu'à 17 ans, s'engager dans les Waffen-SS, c'est comme si moi, au même âge, j'avais eu envie d'être tortureur en Algérie. Point.
Marc.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que tout se joue à 17 ans et tout s'est joué à 20. Mais j'accorderai... Je pense que la divergence avec Alain Gérard Slama, c'est que lui, si je me permets d'interpréter votre pensée, Alain Gérard, c'est pas le fait d'avoir été Waffen-SS ou ceci et cela.
Non.
C'est
ce qui se joue, et je sais pas
le
si on
désir,
est d'accord là-dessus, mais ce qui se
le
joue,
désir, c'est pour ça que l'enfance est si important.
Les désirs que l'on a.
Quels sont les désirs que l'on a? Il faut que tout le monde avoue ses désirs, ou dise ses désirs.
Cette idée qui m'a Gérard à garder le désir qu'il avait à 17 ans.
Cette
les
idée
désirs.
M'était évidente, par exemple, quand on a appris que.
Qui aimiez-vous à cet âge?
Que monsieur Jospin était dans un mouvement trotskiste d'une nature très particulière, d'un mouvement extrêmement autoritaire.
Je parle pas de ça. Je dis, qui aimiez-vous à cet âge?
On va laisser Alain Gérard vous répondre malgré tout, puisque il est quand même le meilleur porte-parole de sa propre expérience et de sa propre pensée.
Oui, non, mais il devient urgent que j'écrive mes mémoires pour établir la vérité.
Mais oui.
Non, j'ai eu horreur de la situation coloniale et j'étais un gamin pacifiste. Voilà. Donc, mes premières pulsions, voyez, se sont sans doute...
Elles sont dues probablement sont doute, à l'usage que vous avez fait de votre désir profond qui n'allait pas dans le sens d'un colonialisme brutal.
Vous
voilà,
en avez horreur, ça c'est clair.
Philippe Soler, épitaphe, c'est aujourd'hui le jour des morts. Très curieux, vous la rédigez dès aujourd'hui. Ces jours de commémoration des morts, je la lis. Je ne tiens pas du tout à mourir, écrivez-vous. Mais s'il le faut physiquement, j'accepte comme prévu qu'on enterre mes restes au cimetière d'Ars-en-Ré. Soler-Sanré, entre parenthèses. Sur ma tombe, 1936, 2000, il y a des points de suspension, on ne sait pas quand. Voilà, cette inscription, Philippe Joyot Solers, vénitien de Bordeaux, écrivain, si un rosier pousse pas trop loin, c'est bien. Pourquoi rédiger son épitaphe aujourd'hui alors que vous avez l'air d'être très très en forme? En tout cas, on l'a entendu ce matin.
Oui, mais justement, c'est le moment de le faire. Sans quoi ce serait presque un gémissement. Non, cet endroit m'intéresse parce que je le dis dans ma biographie, là, vraiment mon enfance. Pourquoi? C'est un petit cimetière et je vais être enterré. J'ai retenu la place d'ailleurs. Je trouve ça significatif de mon point de vue. C'est-à-dire, à côté, juste à côté, il y a un carré où sont inhumés des gens qu'on n'a pas réclamé, des corps, qui sont tous mitrailleurs, aviateurs, pilotes, etc., australiens, néo-zélandais.
De la Seconde Guerre mondiale.
De la Seconde Guerre mondiale, nous sommes vers 1942, qui sont venus se battre là, au-dessus des maisons qui étaient en train, des maisons de chez moi, qui étaient en train d'être rasées par les nazis parce qu'on gênait leur angle de tir sur l'Atlantique. Ces fous croyaient qu'ils pouvaient murer l'Atlantique, vous vous souvenez peut-être. Voilà. Donc ils sont là, personne ne les a réclamés, et ils sont morts en quelque sorte pendant qu'on rasait mes maisons. Donc ils sont morts pour moi. Alors je trouve ça, voilà, il me semble que c'est un homme, je peux mettre mes restes à côté d'eux, voilà.
Bon, ben voilà en tout cas pour l'explication. Et les critiques, qu'est-ce que vous en faites? Elles commencent, elles sont nombreuses et on a l'impression qu'elles vous affectent malgré tout.
Ah bon? Non, pas vraiment, parce que presque toujours c'est du déjà vu. Comme je dis, le western est constant, c'est du recyclage. La plupart du temps, le dossier est recyclé et ça change pas grand-chose.
Mais quand on vous traite de mâle blanc, hétérosexuel, bourgeois, d'origine catholique,
oui,
la ça... honte.
Oui, non, mais ça c'est pour rire, oui, c'est ça. Enfin, je me suis fait à peu près traiter de tout. Écoutez, Badou, si vous voulez, un jour, on va faire ça en privé. On va mettre tout ce qui s'est dit dans un ordinateur ensemble sur moi, et vous allez voir qu'il va fumer, je vous assure. Faisons l'expérience.
Le cul du mois, allez, à Marc.
Non, à propos de fumer, non, je voulais juste signaler quand même, on n'a plus le temps, hein. Enfin, que page 109, il y a une série d'atteintes particulièrement graves à la loi de 1970, donc... sur un produit.
Quelle loi, Marc?
Un produit dont le nom commence par H, d'ailleurs c'est écrit comme ça, un titre de Philippe Solers dont il dit qu'au moins il est déclaratif, à quoi il s'ajoute, donc il y a des joints fumés, un peu de coke.
Vous parlez de mes romans afghans.
Enfin,
j'ai écrit des romans afghans.
Oui, oui.
Pas au sens géographique.
Vous voulez dire que c'est couvert par l'immunité?
Du speed, captagon, ensuite réchauffement immédiat.
Merci pour le mal rendu au Corridran.
Voilà.
Bon, on n'est plus très nombreux à savoir de quoi il s'agit.
Et oui, ça a coûté sa vision à Sartre. Comme vous savez, il en prenait trop.
Merci infiniment, Philippe Solers, de nous avoir rendu visite. Guerre secrète, ça paraît donc aux éditions Carnet Nord. Et puis, un vrai roman. Ces mémoires qu'on peut lire chez Plon, qu'on peut lire dans l'ordre, qu'on peut aussi lire dans le désordre d'ailleurs. C'est assez curieux parce qu'il y a l'itinéraire biographique, vous racontez l'itinéraire et les grandes étapes du passé, mais il y a aussi un très grand nombre d'entrées thématiques qui composent quoi d'ailleurs ?
De la
c'est
musique.
Pas une mythologie,
de la musique.
C'est
à mon avis,
la musique.
Oui, à mon avis, si vous avez envie de tourner la page, ça ira. Voilà.
Et quel morceau de musique faut-il écouter en vous lisant?
Bah, écoutez, je crois que vous avez Mozart, vous avez tout ça. Et Jean-Sébastien Bach, enfin, ou alors Thelonious Monk, ou Charlie Parker, après tout, pourquoi pas?
Pourquoi pas du jazz?
Oui.
8h05, dans une minute, il est temps de retrouver un autre vrai roman, ou plutôt un roman vrai pour conclure. C'est le portrait du jour, Marc Kravetz, Ming the Clam.
Ming the Clam, oui, Ming the Clam. Bon, en fait, c'est en lisant Philippe Sollers que j'ai pensé, parce que...
9h05, pardon Marc, je me perds avec les changements d'heure.
Philippe Sollers, à vous d'ailleurs. L'anglophilie, ça, on la partage profondément. Mais ensuite, il avoue qu'il aime bien la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes évidemment pas sans savoir.
Qui a toujours été à la gauche de Staline. Voilà. Enfin, très à gauche par rapport à Staline.
En plus, sur les portraits officiels. Donc, vous n'ignorez évidemment pas que deux reines, Elisabeth, ont régné sur l'Angleterre. Elisabeth II, qui en est toujours la souveraine, que Dieu la protège. Mais elle est sur le trône qu'occupa donc Elisabeth la première. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un instant qu'un être vivant ait pu connaître ces deux règnes, ou ces deux reines, que 3 siècles et demi séparent? Non. Eh bien, vous avez tort. Et c'est pour ça que je vais vous présenter aujourd'hui Ming the Clam. Alors, clam, comme le coquillage, c'est bien de ça dont il s'agit. D'ailleurs, alias Cyprine, en France, alias Quogg nordique, au Canada, ou plus savamment Artica, Islandica, c'est un mollusque bivalve, marin, malheureusement pour lui, comestible. Et puis Ming, ben voilà, comme la dynastie du même nom, Philippe Sollers nous a beaucoup parlé de la Chine, et à une époque où l'on estime, pourquoi on l'a appelé Ming, parce qu'on estime qu'il est né à cette époque. Il vivait encore jusqu'à ce mois d'octobre 2007, quand il fut dragué accidentellement sur la côte nord de l'Islande. Alors les chercheurs de l'université de Bangor, c'est un état... du Maine, c'est un état des États-Unis, le Maine, chargé d'étudier le cas, sont formels. Ming the Clam avait alors plus de 400 ans d'existence. Ce sont eux qui, du coup, d'ailleurs, lui ont donné ce petit nom, qui fut celui d'une grande dynastie chinoise. Ils ont utilisé la technique dite de la... Attendez, je vais le lire doucement. De la sclérochronologie, qui permet d'estimer l'âge d'un coquillage par le décompte du nombre de lignes présentes sur sa coquille. Alors, les chercheurs de Bangor ont trouvé 405 lignes, ce qui lui donnerait 405 ans. Alors, faut dire environ, parce qu'il y a une légère marge d'erreur, les lignes, elles mesurent quand même que 0,1 mm de largeur. Donc, ça pourrait être 410. On admettra de toute façon qu'à cet âge, on ne compte plus. Alors, quoi qu'il en soit, Ming the Clam est donc à ce jour le plus vieil animal, nous sommes des animaux aussi, le plus vieil animal jamais découvert. Il va d'ailleurs à ce titre entrer dans le livre Guinness des records, remplaçant un autre clam d'ailleurs, qui avait été trouvé en 1982. Mais ça n'a rien à voir, il n'avait que 220 ans. En fait, on avait aussi découvert dans un musée un clam encore vivant islandais de 374 ans, mais le record n'a pas été enregistré. Alors, dans la longévité exceptionnelle, à part les clams, les autres espèces animales, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la tortue, il y a la fameuse Adwaita des Seychelles, qui est morte, dit-on, à 250 ans. Et ses deux consœurs juniors, la tortue étoilée de Madagascar, morte à 190 ans. Et la fameuse Ariette, la tortue des Galapagos, très jeune, disparue à l'âge de 175 ans. Mais rien, évidemment, n'égale Ming the Clam et ses 405 ans environ. Ce qui le fait naître plus ou moins en même temps que le futur Louis XIII, à l'époque, eh bien oui, vous nous en parlions, à l'époque où Shakespeare écrivait, il avait déjà écrit Hamlet. Il écrivait « Tout est bien, qui finit bien » et « Cervantes », la première partie du Don Quichotte. C'est l'époque aussi où le pape Clément VIII ordonne au tribunal de l'Inquisition, faut tout de même en parler, de mener Giordano Bruno au bûcher, Giordano Bruno dont personne ne parle, soit dit en passant, dans les environs ces jours-ci. Alors, difficile évidemment de savoir quelle mémoire Ming the Clam a pu garder du temps de sa naissance au fond de la mer islandaise. Et ce ne sont pas les événements qui ont manqué depuis pour accompagner sa très longue vie qu'il pourrait raconter, même s'il est quand même assez hautement probable qu'il n'en avait rien à faire. Évidemment, le mystère de la longévité du clam excite au plus haut point les chercheurs. Quel processus notre coquillage a-t-il trouvé qui lui permet de combattre victorieusement l'usure du temps? Cette question va nourrir les recherches à venir de l'équipe scientifique de Bangor, qui espère découvrir, en examinant les tissus du mollusque, quelques secrets sur l'impitoyable vieillissement qui, évidemment, nous menace tous, sauf Philippe Sollers. Alors, d'ores et déjà, il y a une fondation nord-américaine d'assistance aux personnes âgées qui a offert une bourse de près de 60 000 euros pour aider les chercheurs de Bangor à percer le secret, autrement dit, à faire de Mathusalem un futur réaliste pour l'humanité. Alors malheureusement, l'histoire s'arrête là. Pour Ming the Clam, pêché par hasard par une équipe qui draguait les fonds marins islandais pour étudier le réchauffement climatique, Ming the Clam n'a évidemment pas survécu à l'événement. Nul donc ne saura jamais combien de temps notre clam aurait pu espérer vivre encore, tranquillement dans sa mer islandaise, ou pour le dire autrement, Ming the Clam, qui vit le jour quand s'achevait le règne d'Elisabeth I en 1603, ne verra pas la fin de ce qu'on ne serait pas proche, hein, bien sûr, de celui d'Elisabeth II. Aurait-il pu ? La question restera sans réponse. Mais après 405 ans d'existence, mourir pour la science, car c'est le cas, cela s'appelle un destin. Plus qu'un portrait, vous serez d'accord avec moi pour faire de Ming the Clam notre héros du jour.
Merci Marc Kravets. Un commentaire d'ailleurs, il manque à votre panthéon personnel, celui-là, Ming the Clam, Philippe Solers.
Je mange des Ming the Clam depuis fort longtemps, ce qui me maintient en forme. J'ai mon fournisseur personnel islandais. Et d'autre part, vous avez dit qu'en effet, il était contemporain, ce Ming the Clam, dont je suis en somme, oui, bien sûr. Il était contemporain de la naissance de Louis XIII. Donc c'est parmi, en effet, vous avez dit animal, attention, n'exagérons rien, les dinosaures, c'est vraiment un coquillage absolument passionnant.
À déguster avec la mayonnaise qui,
Ne mettons pas tout dans le même... Non, je vous conseille le Ming the Clam. Et vous avez dit qu'il était en somme contemporain des mousquetaires, qui mangeaient eux-mêmes d'ailleurs le Ming the Clam. Et donc, voilà. Et il nous faut ressusciter absolument l'esprit génial des mousquetaires français, comme dirait Slama. L'esprit français, c'est quoi? Mais c'est la mousquetaire.
Voilà, et est-ce qu'on mange les héros? Merci Philippe Solers, un très très grand merci à Fanny Jaffray qui m'a aidé à préparer.